Bonjour, bienvenue dans un monde béni par la grâce de la chimie, un monde de banilons et de jambes sexy, un monde où les soufflés, où les gâteaux lèvent toujours quand il faut et comme il faut. De la magie? Non, de la chimie, on vous dit oui. Avec elle, tout devient facile, tout surtout devient possible. Éteindre un incendie, vaincre la faim dans le monde et même gagner la guerre, si, si. Enfin ça, c'est le monde selon Monsanto, tel qu'il a été vanté pendant des décennies par les publicités de la multinationale. Publicité légèrement écornée ces 20 dernières années, des scandales à répétition, des produits interdits, des études scientifiques ahurissantes ou effrayantes. Son image en a pris un sacré coup. N'empêche, Monsanto, aujourd'hui, c'est toujours 13 milliards de dollars de chiffre d'affaires, 22 000 employés dans une soixantaine de pays et, par exemple, 825 000 tonnes de glyphosate répandues chaque année, ce qui en fait le pesticide de synthèse le plus utilisé sur la planète. Alors ce monde-là, évidemment, c'est le vôtre aussi. Les produits Monsanto, vous vous en êtes peut-être servi. Si vous travaillez la terre, vous n'avez pas toujours eu le choix. Vous les avez forcément côtoyés, en tout cas, entre l'assiette et le supermarché. Difficile de passer à côté d'un géant. Et quand on vous dit que certains d'entre eux sont potentiellement cancérogènes, évidemment, ça vous concerne. Alors ce matin, bienvenue dans le monde pas si merveilleux de Monsanto.
France Inter, dans quel monde on vit? Julia Foyce.
Et pour nous glisser dans l'envers du décor de Monsanto, pour gratter les mailles de la réclame, nous avons le plaisir d'accueillir le photographe Mathieu Asselin. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'un des artistes invités aux rencontres d'Arles où vous exposez jusqu'au 24 août une série de photos également publiées dans ce livre Monsanto, une enquête photographique éditée chez Actes Sud. Que représente Monsanto pour vous? C'est l'ennemi à abattre? C'est le diable? C'est quoi?
Non, c'est pas... C'est... Oui. Bon, le diable, je sais pas, mais voilà, c'est une façon de faire, c'est une façon de faire du business, de faire de l'argent, c'est une façon de voir le futur et de laquelle je suis pas très d'accord et aussi laquelle on peut voir surtout et les conséquences, donc les conséquences économiques, sociales et les conséquences de santé.
Et en même temps, des géants de la chimie, il y en a d'autres. Alors pourquoi Monsanto? Spécifiquement sur lequel on a déjà beaucoup écrit, beaucoup dit, il y a toute une littérature, il y a des travaux scientifiques, il y a des enquêtes journalistiques. Pourquoi y retourner?
Un travail photographique sur Monsanto, de cette façon, je suis avant tout un photographe et on n'avait pas fait jusque-là et on avait toujours photographié soit bien l'agent orange ou le problème avec les fermiers ou les contaminations, mais faire tout ce travail ensemble photographiquement, ça n'avait pas été fait. Et l'histoire m'intéressait beaucoup et pourquoi Monsanto? Je crois que Monsanto, c'est un très très bon exemple de ce qui peut se passer quand on laisse des grandes multinationales faire un peu ce qu'ils veulent. Et voilà.
Alors vous allez nous raconter ce qui peut se passer, mais dites-nous d'abord le déclic pour vous. Qui vous a mis le nez sur Monsanto?
Mais Monsanto, c'est mon père. Mon père, il m'a parlé de Monsanto il y a très longtemps, il y a au moins 7-8 ans.
Votre père qui se définit lui-même, on le voit dans votre livre, hein, comme citoyen du monde, écologiste. Activiste peut-être?
Moi j'ai mis activiste, mais en fait il m'a dit non, je ne suis pas un activiste, je suis un citoyen concerné. Donc okay. Je me suis fait étirer
fait
les oreilles. Oui. Mais moi je pense qu'il est un activiste d'une façon ou d'une autre, bon on va dire, et citoyen concerné. Mais oui, donc lui, Jean-Claude Asselin, il m'a parlé de Monsanto. Et donc j'ai fouillé un peu, voir qui était, et j'ai vu en fait qu'il y avait une histoire incroyable. Plus on fouillait le monde de Monsanto, plus elle était incroyable et étonnante.
Alors ce beau livre est aussi dense que l'empire Monsanto est vaste. Est-ce que vous n'avez pas eu peur à un moment ou à un autre de vous noyer? Parce qu'il y a tellement de choses à raconter. Est-ce que vous avez eu le sentiment, à mesure que vous dérouliez la plotte, qu'il y en avait plus à chaque fois derrière à raconter?
Oui, je dis toujours, on peut faire une encyclopédie britannique, ouais, avec l'histoire de Monsanto. Donc il a fallu que je me centre sur des exemples et lesquels sont importants, mais aussi ils peuvent bien illustrer qui est Monsanto. Parce qu'après, on peut partir dans l'Amérique du Sud, en Argentine par exemple, pour voir les dégâts pas seulement Monsanto, mais bien sûr Monsanto, ou en Inde, ou dans des autres pays. Donc je me suis dit, je vais prendre les États-Unis et le Vietnam, ouais, comme un exemple.
Alors l'histoire de Monsanto, celle que vous racontez, Mathieu Asselin, c'est bien la nôtre, celle d'un monde où on a cru au miracle de la chimie, celle où on a fermé les yeux au nom d'une croissance à toute vitesse sur les premiers signes qui pourtant auraient dû nous alerter. Alors ce matin, vous savez quoi? On va les garder grand ouverts. Classique pour ouvrir le bal ce matin, Jamiroquai, King for Day. Et merci à Elsa Béranger, notre programmatrice musicale. Où que vous soyez, on espère que vous êtes bien là, tranquillement calé quelque part en train de nous écouter, de nous écrire peut-être. Parce que oui, vous pouvez par mail, c'est à l'adresse suivante, dans quel monde on vit, @radiofrance.com. Et sur les réseaux sociaux, sur Twitter comme sur Instagram, c'est avec le hashtag dans quel monde on vit. Et ce matin, on épouse l'objectif, le regard du photographe Mathieu Asselin. On tourne les pages de votre livre Monsanto, une enquête photographique. Livre qui s'ouvre sur ces publicités hallucinantes dont je parlais en tout début d'émission et qui vantent la perfection, selon Monsanto. Un monde rêvé, idéal, merveilleux grâce à la chimie. Avec ce slogan, par exemple, sans les industries chimiques, la vie elle-même serait impossible. Vous avez dû tomber de votre chaise, non, quand vous avez lu des choses pareilles? Ça vous a surpris?
Et non, pas du tout. Et en fait, c'est la partie la plus light de Monsanto. Leur
c'est pour, ça, que, c'est pour ça qu'on commence par là, en fait, pour,
oui, voilà.
Pour ménager les oreilles des auditeurs.
Des auditeurs, pour les mettre en... Oui, et quand on voit tous les dégâts qui ont fait et qui continuent à faire, et on comprend bien d'où vient cette mentalité, la publicité, et c'est pour ça que je commence...
Mais Monsanto n'oserait plus jamais communiquer comme ça aujourd'hui, c'est plus possible, ça.
Non, mais vous savez, dans 30 ans, peut-être 40, je sais pas, on va voir les publicités de Monsanto d'aujourd'hui, on va se dire la même chose.
Ouais.
Donc voilà, ça, oui.
C'est le... Alors, le point culminant de cette propagande, l'un des plus saisissants, je sais pas, c'est la Maison du Futur, qui a été inaugurée à Disneyland en Californie en 1957. On en voit quelques images dans votre livre. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit?
Disneyland avait une partie de leur parc qui était consacrée au futur, et ça s'appelle Tomorrowland. Et Monsanto avait trois projets, trois attractions. Et bien sûr, c'est un peu attraction, coup de pub. Et donc, ils montraient les merveilles de la chimie. Et l'autre, c'était un voyage dans le corps humain. Et le troisième, c'était cette maison du futur. La maison du futur, c'est bien sûr comment Monsanto voit le futur et surtout comment il nous vend le futur. Parce que Monsanto, c'est ça, Monsanto, on nous vend le futur à travers leurs produits et leur vision du futur. Donc cette maison à Disneyland montrait tous les avances technologiques.
Alors c'est une maison dont l'ossature est totalement en plastique, c'est
voilà,
ça?
Voilà, parce qu'il faisait du plastique à l'époque. Ouais. Et je me suis intéressé à cette maison parce que, et, je sais pas, 3000 kilomètres plus loin, à Alabama,
ouais,
et il y a dans cette ville Anniston, et il y a une maison aussi. Et aujourd'hui, qui est complètement abandonné, et on voit qui a été pris par la nature, oui, parce que les gens, ils sont partis dû à la pollution. Et c'est une maison qui était juste en face de l'usine de Monsanto de l'époque. Donc ça m'a paru intéressant, voir le futur aujourd'hui. C'est
de
quoi ce
en,
futur
en parallèle ces deux maisons-là. Je rappelle quand même ce chiffre que vous donnez sur la maison du futur, 20 millions de visiteurs en 10 ans. Et puis, oui, la maison a été fermée. La maison d'Aniston que vous photographiez, que vous mettez en parallèle, elle n'a plus beaucoup de visiteurs. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de cette ville-là qui est quand même très emblématique de ce qui se passe quand on habite sur un site près d'une usine Monsanto? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette ville? C'est là où, je crois, Monsanto s'est installé dans les années 30, c'est ça, pour fabriquer du PCB?
Oui, donc le PCB, c'est bon, une matière qu'on a utilisée pour plusieurs choses, mais un des usages principaux, c'était pour l'isolation électrique. Mmh. Et maintenant, on trouve cette matière partout, et dans les océans, et même au nez. Il y a pas mal de gens qui ont des très très faibles taux et dans leur sang. Mais le PCV, voilà, on n'arrive pas à et se débarrasser de ça. Et Aniston, pendant 40 ans, a été contaminé par cette usine de Monsanto qui ont jeté des déchets illégalement et en le sachant pendant 40 ans. Et aujourd'hui, Aniston, c'est une ville complètement fantôme. Il y a ce qui reste, c'est une population qui, bien sûr, peut pas partir de là parce qu'ils n'ont pas les moyens. Leur maison, ils veulent plus rien, parce que c'est des sites très très contaminés. Donc voilà.
C'est ce que vous photographiez en ouverture de votre livre. Oui. Mais la photo que vous aviez choisie pour nous ce matin ne se situe pas, nous emmène pas à Aniston. Ça n'est pas donc cette série-là, c'est une autre. Et dites-nous de quoi, de qui s'agit-il?
Et Thu Linh, c'est une jeune femme vietnamienne. À l'époque où je l'ai photographiée, elle avait 21 ans. Il doit en avoir 22, 23. Et je l'ai photographiée, donc il y a quelqu'un qui me parlait d'elle, et j'ai vu un peu ses photos avant de la photographier pour la connaître. Et donc j'ai resté chez elle une demi-journée, mm-hmm, parlant avec elle, la connaissant un peu. Elle porte un t-shirt avec le drapeau américain. Ouais. Et derrière ça, il y a une histoire très intéressante. Et le jour...
Est-ce que vous pouvez simplement nous dire de quoi elle souffre?
Oui, oui, c'est vrai. on est à la radio.
donc la photo, bien sûr, oui, sera sur notre Instagram. Mais avant ça, est-ce que vous pouvez nous décrire la photo, s'il vous plaît?
Donc Linh est une jeune femme, et 21 ans. Elle est assise et sur un tabouret chez elle. Et elle n'a pas de bras. Elle est née sans bras, dû à malformation génétique de l'agent orange. L'agent orange qui c'est pas elle directement qui a été contaminée, mais ses parents.
Oui. Et sûrement, on rappelle que l'agent orange est un défoliant qui avait été utilisé pendant la guerre du Vietnam par l'armée américaine.
Et donc elle porte un t-shirt avec le drapeau américain, un t-shirt qu'elle a décidé porter elle-même.
C'est elle qui a voulu le porter pour la séance photo.
Oui, quand je l'ai dit, on est prêt, on va faire la photo. Elle dit, une seconde, je vais m'échanger, j'arrive. Elle sort avec ses t-shirts. Il y a plusieurs, on peut dire que peut-être parce qu'elle adore les États-Unis, parce que c'est vrai, les jeunes, même au Vietnam,
ils sont fascinés par
la culture américaine. Aussi, on peut dire que c'est un peu, pour dire, regardez, ça, c'est...
Un peu provoque, quoi.
Oui, ça, c'est...
Est-ce que vous vous souvenez de cette rencontre? Comment, quand vous passez du temps avec une jeune femme qui n'a plus de bras, qui n'a pas de bras, qui n'en a jamais eu, comment est-ce qu'on sort de cette séance photo-là? Est-ce qu'elle continue de vous accompagner?
Oui, je crois que... Et ça, le problème, le problème qu'elle a... pas avoir de bras, je ne sais pas si c'est un problème vraiment, parce qu'elle fait des choses merveilleuses avec ses pieds, elle écrit à l'ordi, elle dessine, elle est très très active, mais ça disparaît, peu à peu, quand on commence à parler, on oublie, et en fait, elle devient ce qu'elle est, une personne fantastique,
et jolie, complètement
normale,
un joli regard aussi.
Un joli regard, et en plus quelqu'un qui a une vie, et très active.
Alors, toujours dans ce chapitre sur l'agent orange, on croise Heather, fille d'un vétéran du Vietnam à qui il manque des doigts et une jambe. Kelly, chez qui on a diagnostiqué 32 pathologies sans doute liées à l'agent orange. Et puis il y a David et Thomas qui sont des habitants d'Aniston, où on a encore Troy ou Mo qui sont en guerre ouverte avec Monsanto. Est-ce que tous ces gens, Mathieu Asselin, ont accepté de vous parler, de se laisser photographier facilement?
Oui.
Je pense notamment à tous ceux qui sont mutilés. Ça ne doit pas être évident d'accepter l'objectif d'un photographe.
Ils ont envie de parler, ils veulent parler, ils veulent raconter et leur histoire, et surtout, et beaucoup d'entre eux, ils se battent tous les jours pour être reconnus et comme des victimes de Monsanto, soit bien et par des problèmes de santé, mais aussi par des problèmes économiques, parce que Monsanto, c'est pas seulement des problèmes de santé, mais c'est aussi des problèmes économiques. Donc voilà, eux, ils sont très ouverts à se faire photographier. En plus, c'est des gens qui ont des histoires assez fortes. Donc ils ont envie de parler. Ils sont très.
Alors, pour continuer à nous emmener avec vous, dans ce monde selon Monsanto, dites-nous, Mathieu Asselin, s'il y avait une odeur qui pouvait nous transporter directement dans l'un des sites que vous avez visités et photographiés, ce serait laquelle?
Oui, Sujet, Illinois. J'étais allé photographier un site contaminé là-bas. Il y a beaucoup d'entreprises chimiques encore qui travaillent. Et il y a cette odeur acide, cette odeur qui râpe à la gorge. Cette odeur un peu où il faut presque et nager pour ouvrir, c'est tellement épais
Alors la sensation serait peut-être une sensation d'étouffement, ou est-ce qu'il y a autre chose? Qu'est-ce qui vous traverse quand vous êtes sur place comme sensation?
Il y a bien sûr cette sensation de tout fait, mais aussi ça gratte à la peau.
Ah
et,
oui.
Oui. Et ça aux yeux. Il y a cette sensation des picotements, on me dit, dans la peau, qui est assez étrange. Et surtout à la gorge, ce truc qui colle à la gorge.
Quant à la bande-son, celle que vous avez choisie, c'est un titre du Massilia Sound System, Tout le monde ment. Et hop.
Tout le monde demande, tout le monde demande, le gouvernement ment énormément. Tout le monde demande, tout le monde demande, le gouvernement ment énormément. Si la vache ment, alors le piment, et si le piment, alors le léman, bien sûr la jument, et le caïman, dans l'eau le sarment. Le chevènement, et l'allègrement, et l'adroitement, et l'extrêmement, politiquement, l'investissement, et le parlement.
Ment communément,
tout le monde ment,
tout le monde ment,
le gouvernement
ment énormément,
tout le monde ment,
tout le monde ment,
le gouvernement
ment énormément,
le terriblement.
Tout le monde ment, Mathieu Asselin, la photo, elle dit la vérité?
Non, pas obligatoirement. Et c'est la vérité, c'est quoi la vérité? Je sais pas, ça c'est une question dans la photographie de laquelle on parle beaucoup. Je sais pas s'il y a une réponse à ça, mais Et elle ment pas, mais ça veut pas dire non plus qu'elle dit la vérité.
Donc c'est votre réalité. C'est ma réalité. À vous. C'est un drôle de défi dans lequel vous vous êtes lancé parce que photographier l'impact de Monsanto sur les terres agricoles et sur ceux qui y vivent, autant essayer de montrer l'invisible quand même, non? Il y a un peu de ça.
Oui, il y a bien sûr, et sauf les photos des gens qui sont éteints de la genre orange, les problèmes physiques. Ouais. Le reste, c'est assez difficile de voir et la contamination, ou voir comment les gens sont affectés. Et en même temps, ça m'intéressait beaucoup. C'était un challenge photographique. Comment montrer ça, cette contamination, ces dégâts humains?
Et puis aller au-delà des mensonges de Monsanto, aller au-delà de cette propagande. Comment est-ce que vous avez travaillé très concrètement? Vous étiez seul, ça a duré 5 ans.
Oui.
C'est un oui d'un peu de fierté d'être allé au bout de ce travail-là, ou c'est un oui qui dit c'était dur?
C'était dur. Après, vous savez, quand vous photographiez des gens qui ont tous ces problèmes et physiques et économiques,
on se dit que ça va.
Oui, c'est mon travail est pas vraiment le plus difficile au monde, mais oui, ça a été compliqué, trouver, par exemple, comment photographier au Vietnam, ça a été compliqué, et trouver des fermiers, mais bon, j'ai eu toujours l'appui, bien sûr, des institutions, de groupes, des gens, qui connaissent bien la problématique. Aussi, il faut dire qu'il y a plein de journalistes, et des activistes, des scientifiques qui se battent contre Monsanto depuis très longtemps, et moi je découvre pas le chaud ici. Et il y a par exemple Marie-Monique Robin qui a fait un documentaire et surtout un livre fantastique sur le sujet. Donc voilà, moi simplement, comme photographe, ça m'intéressait.
Vous êtes parti de là pour poursuivre leur travail.
Voilà, mettre ça.
Et apporter votre patte, quoi.
Voilà.
Maintenant, on fait quoi? Une fois le constat établi, le diagnostic posé, une fois la blessure photographiée, vous nous le direz, Mathieu Asselin. Comment on répare, comment on soigne, comment on se défend, surtout.
Talons piqués, cuir de star, cheveux pressés, blond, trottoir. Sur son boulevard, les néons phares, décor en rose. Talons usés, cœur d'ivoire.
Sultan des îles de l'énigmatique, décoiffante, mais surtout très bien coiffée, impératrice, que vous retrouverez en concert au Touquet le 25 août. À la technique ce matin, Alice Berger, à la réalisation Romain Imbertèche, à la coordination Valentin Pérez et Johanna Hébert, avec Rose Bernard et Elisa Bondarenko. Voilà, vous savez tout, ou presque.
Dans quel monde on vit ? Julia Voice sur France Inter.
Mathieu Asselin est notre invité ce matin pour parcourir avec lui le monde selon Monsanto. Une enquête qui vous conduit, on l'a dit, des États-Unis au Vietnam. Enquête pendant laquelle vous avez photographié, mais pas que. Vous avez enquêté, vous avez réuni des documents d'archives. Qui êtes-vous, Mathieu Asselin ? Qu'êtes-vous pendant tout ce travail ? Est-ce que vous êtes un photoreporter ? Est-ce que vous êtes un artiste ? Est-ce que vous êtes, vous aussi, comme votre père, un activiste ? Vous êtes quoi ?
Et je suis au service d'une histoire. Je suis donc je deviens photographe, je deviens enquêteur, artiste.
Et enfin, un enquêteur un peu particulier parce que délibérément, vous n'êtes pas allé voir Monsanto. Vous n'avez pas. C'est un livre qui est très clairement à charge.
Oui, mais je raconte l'histoire des gens qui Monsanto a laissé derrière leur contamination, derrière. Donc non, pourquoi photographier Monsanto ? J'avais aucun intérêt. Je voulais, c'était rencontrer ces lieux et ces gens. Et Monsanto, bon, bien sûr, ils vont m'envoyer une lettre où ils disent et merci beaucoup, on n'est pas intéressé, mais on vous envoie une belle brochure qui explique qui nous sommes. Donc voilà, je suis pas intéressé de je suis pas un photojournaliste non plus, donc j'ai pas besoin d'avoir un côté et l'autre. Oui. Je raconte l'histoire laquelle je veux raconter, dans laquelle je crois. Et bien sûr, il y a une responsabilité derrière ça. Je ne peux pas raconter n'importe quoi. Je raconte l'histoire des gens, l'histoire qu'ils m'ont donnée pour raconter. Histoire des lieux aussi. Et aussi, mon histoire à moi. Qu'est-ce que j'en pense de Monsanto ? C'est quoi ma vision sur Monsanto ?
Alors, c'est votre point de vue, mais qui sert aussi à aiguiller un petit peu le nôtre. En tout cas, ce livre nous ouvre les yeux. La question qu'on se pose, évidemment, c'est qu'est-ce que nous, on peut faire très concrètement ? C'est-à-dire que vous nous invitez, par exemple, à boycotter les produits Monsanto, mais sur les étiquettes d'un certain nombre de produits, il n'est pas écrit en gros « Monsanto, n'achetez pas ». Donc on peut faire quoi, nous ?
Ben oui, ça c'est une bonne question. Ben je crois, on peut faire beaucoup, je crois. On achète, notre pouvoir d'achat a des conséquences très très fortes sur ces grandes multinationales. On décide qu'est-ce qu'on achète et qu'est-ce qu'on n'achète pas. Et par exemple, si on essaye d'acheter le moins possible des produits avec des pesticides, et déjà, on fait beaucoup. Aussi, voilà, je crois que simplement, il faut faire gaffe. Qu'est-ce qu'on mange ? Et d'où il vient ? Comment ? Et avec ça, je crois que déjà, on fait beaucoup.
Alors, vous nous dites que le futur est entre nos mains. Aujourd'hui, déjà, il y a des pétitions qui circulent, hein, ça et là. Des citoyens isolés qui attaquent Monsanto en justice. Pas encore de class action d'une ampleur suffisante pour faire trembler le géant. Cela dit, écoutez, voilà une initiative qui a su faire parler d'elle en octobre dernier. Elle est racontée par Véronique Rebérotte, notre consoeur de France Culture.
Le géant américain de l'agrochimie, jugé par un tribunal citoyen ce week-end à La Haye, aux Pays-Bas. Monsanto, célèbre pour ses OGM et ses herbicides comme le Roundup, sera-t-il un jour coupable d'écocide, de destruction d'écosystèmes dont dépendent les populations pour vivre ? Les juges, de vrais professionnels, délibèrent aujourd'hui et demain, après avoir entendu des hommes et des femmes venus du monde entier. Ils se disent victimes de Monsanto. Pas de condamnation à attendre, mais un avis juridique consultatif.
Pendant deux jours, 24 personnes venues des quatre coins de la planète sont donc venues raconter leurs histoires à la barre de ce tribunal populaire. Mathieu Asselin, vous l'avez suivi, ce tribunal-là, vous en avez entendu parler, j'imagine.
Bien sûr. Ouais.
Vous vous êtes dit quoi quand vous avez entendu leurs histoires ou quand vous avez su que ce tribunal se montait ?
Mais moi, je pense que c'est une idée fantastique, même si c'est un tribunal civil, et c'est déjà un pas en avant pour essayer de, dans un futur, faire un je sais pas si c'est un vrai tribunal, mais un tribunal avec qui est pas seulement un tribunal civil, donc un tribunal qui peut avoir un poids et des répercussions directes sur Monsanto. Donc ce tribunal, je pense que c'est un très très bon premier pas, et j'espère qu'ils vont continuer à travailler sur ça, mais surtout l'histoire avec Monsanto, c'est pas fini. Il y a les poursuites en justice vont continuer à tomber et dans les prochaines 50 ans. Parce que des choses qui s'arrivent aujourd'hui, ils vont avoir des répercussions dans 20, 30, 10 ans, j'en sais rien. Et bien
donc
sûr.
Il faut continuer à se battre sans.
Oui,
sans
relâche, évidemment. Bien sûr.
Alors, parmi ces 24 personnes qui ont défilé, certains d'entre eux se bagarrent justement depuis des années. Parmi eux, il y avait Sabine Grataloup, son petit garçon de 10 ans, Théo, est né avec une malformation de l'œsophage. Depuis, il a subi pas moins de 50 opérations. Elle raconte son histoire à Mégane Fleury.
On a découvert ces problèmes à la naissance. Ça n'a pas été détecté au cours des échographies. Donc, à la naissance, comme par ces diverses malformations de l'œsophage et de la trachée, son système respiratoire et digestif communiquait. Dès la naissance, on s'est aperçu qu'il pouvait pas respirer normalement, et donc il a été pris en urgence pour séparer le système digestif et respiratoire qui communiquait par la trachée et l'œsophage, en fait.
Et comment est-ce que vous avez fait le lien avec le Roundup ?
Au moment de cette première opération, on a demandé au chirurgien d'où pouvaient venir ces malformations. Et c'est lui le premier qui nous a parlé d'un lien supposé avec les pesticides. Il y a très peu d'études qui sont faites, et les quelques études qui avaient été faites pointaient vers une surexposition aux pesticides. Donc il nous a dit c'est une piste. Sur le coup, on s'est dit non, ça peut pas être ça, parce que nous on mangeait bio et on vit dans une région à la campagne où on est entouré de forêts et de prés, donc il n'y a pas
d'exposition possible.
D'exposition. Mais en fait, c'est seulement un an après que je me suis aperçue que je passais chaque été du désherbant à base de glyphosate, un générique du Roundup, sur notre carrière d'équitation, pour que ce grand rectangle de 700 mètres carrés reste en sable, en fait.
Et quand vous apprenez que ça peut être cette utilisation-là qui a provoqué les malformations de Théo, comment vous réagissez ? Qu'est-ce que vous ressentez ?
D'abord de la colère, ça faut pas le cacher, et puis surtout tout de suite une sorte de sentiment d'urgence, de se dire il faut prévenir, quoi, en fait il faut alerter. Ma première réaction, ça a été d'envoyer des courriers aux autorités. Donc j'ai envoyé des courriers au président de la République et à tous les ministres qui me paraissaient être concernés. Théo est né en mai 2007.
Donc à l'époque c'était monsieur Nicolas Sarkozy.
Voilà, tout à fait. Ils se sont tous refilés le bébé, on va dire. J'ai reçu des accusés de réception. On a bien reçu, on transmet aux services concernés, qui transmettent eux-mêmes aux services concernés. Et puis, voilà, quoi.
Et la suite, ça a été quoi, la suite ?
La suite, comme il se passait vraiment pas, enfin rien, quoi, on va dire, même pas grand chose, rien. Je me suis dit, ça reste de mon devoir d'alerter les gens. Donc je me suis tournée vers les médias et ça a commencé petit à petit à bouger progressivement. On a eu des articles et puis après on a eu quelques émissions de télé. Ça a commencé à bouger un petit peu. On a eu un reportage dans Envoyé spécial.
Et en octobre dernier, vous êtes allée à La Haye, aux Pays-Bas, pour y raconter votre histoire devant un tribunal international citoyen qui jugeait Monsanto. Qu'est-ce que ça représentait pour vous d'être là-bas ?
C'était vraiment essentiel, parce que pour la première fois, c'était quand même une reconnaissance, parce que ça a beau être un tribunal citoyen, les juges qui étaient présents à ce tribunal, c'est des vrais juges de très haute renommée internationale, qui ont mis dans la balance leur crédibilité et leur réputation. Donc c'était la première fois où on me demandait vraiment, officiellement, de témoigner de ce qu'a subi Théo, parce qu'il a quand même eu 51 opérations au cours de ses 10 années de vie, et d'être face à des gens qui se mobilisaient pour que ça n'arrive pas à d'autres, c'était quand même très très important.
Comment expliquer qu'aujourd'hui Monsanto continue à être commercialisé ?
Ah bah ça, je me l'explique pas. Hein. Je vous cache pas que parce que il y a 10 ans, quand Théo est né, bon, on pouvait dire qu'on savait pas. Moi, naïvement, c'est ce que j'ai cru. Je me suis dit, ils sont pas au courant, faut les prévenir que leur produit ils causent ça. Maintenant, objectivement, tout le monde le sait. Il y a eu des études qui ont été faites sur des animaux, donc sur des vertébrés, qui ont mis en évidence le processus précis par lequel se produisent les malformations. Ça a à voir avec l'acide rétinoïque, et je vous passe les détails scientifiques. Mais ça entraîne des malformations qui peuvent se produire à différents niveaux selon la période de la grossesse à laquelle le fœtus est exposé. Mais ça touche d'une manière générale le crâne et toute la ligne du système digestif et la colonne vertébrale. Si j'avais été exposée un peu plus tard, ça aurait peut-être été au niveau de l'intestin ou un autre organe qui se forme à ce moment-là.
Et justement, donc, je crois que Théo est à côté de vous aujourd'hui. Bonjour oui. Théo.
Bonjour.
Qu'est-ce que ça te fait d'entendre ta maman raconter ton histoire
Bah, c'est émouvant et puis voilà, quoi, tu n'as pas habitué, mais voilà.
C'est pas trop dur, c'est pas trop dur de l'entendre tout le temps, ça rappelle pas des mauvais souvenirs?
Non, ça va, parce que je me rappelle pas beaucoup.
Mais oui, il était petit hein, quand il a subi vraiment la grosse partie de son hospitalisation, c'était ses 6 premiers mois de vie où il a été en réanimation.
Et aujourd'hui, comment il va? Il y a encore des opérations fréquentes, régulières?
Il a un contrôle une fois par an, comme les médecins ont un peu abandonné l'espoir de vraiment l'opérer et lui fermer sa trachéotomie. Du coup, il y a un contrôle, donc une anesthésie chaque année. Là où, jusqu'à il y a 2 ans, il était anesthésié quasiment toutes les 3 semaines. Donc, c'est quand même plus confortable, là, on va dire.
Mathieu Asselin, qu'est-ce que vous vous dites quand vous entendez Théo ou sa maman Sabine Grataloup?
Ben, ça me rappelle des produits qu'ils ont fait il y a très longtemps, l'agent orange. Ouais. J'ai photographié des enfants et qui ont des problèmes comme ça au Vietnam et qui viennent de l'agent orange. L'agent orange, c'est un défoliant et c'est pas un herbicide comme on l'appelle aujourd'hui. Il y a plus de la dioxine, bien sûr, mais c'est un produit qui est dérivé de l'agent orange. Donc je comprends pas comment on vend des produits qui viennent de cette idée folle de l'agent orange, des produits dérivés de l'agent orange, on les vend aujourd'hui sur le marché.
On continue à les vendre, oui.
Et je comprends pas non plus comment, par exemple, le ministre et de l'environnement a laissé les lois pour interdire et pour lutter contre tous ces produits et il a il a laissé les portes ouvertes aux compagnies chimiques pour qu'ils continuent. Je comprends pas.
D'ici le mois de septembre, la Commission européenne devrait décider d'autoriser ou pas la commercialisation pour 10 nouvelles années du glyphosate, composant principal du Roundup, le pesticide emblématique du groupe Monsanto. Est-ce que vous en attendez quelque chose de cette décision-là? Est-ce que vous êtes optimiste?
Oui, je suis optimiste, mais en même temps, je suis pas très optimiste. Oui, il faut être toujours optimiste, je crois. Sinon, vraiment,
sinon
on dit c'est fini, on arrête, on continue plus. Et je pense que les choses sont en train de changer. On peut voir, par exemple, comment Monsanto est en train de se faire acheter par Bayer. Ça veut dire que Monsanto sait et qu'ils ont et les années comptées un peu et que tout le monde est en train de changer la façon où on consomme, la façon. Ouais. Donc, ils se disent, on va faire du blanchissage corporatif et ils se font acheter par une corporations qui ont une meilleure image comme Bayer.
Ouais.
Donc là, on peut
donc
voir.
C'est en train de bouger, quoi.
Oui, je crois. Mais
on
bon,
espère,
au même temps, il y a des lois qui ont passé il y a pas longtemps où les endocriniennes,
les perturbateurs endocriniennes,
et c'est plus difficile de les mettre dans cette nomination.
Donc ça bouge, mais un peu lentement.
Mais il y a un lobby énorme.
Évidemment. Le texte que vous avez choisi pour nous accompagner ce matin, c'est celui de votre père qui signe la postface de votre livre, Jean-Claude Asselin. On l'écoute donc, lu par Béatrice Duguay.
« Ayant fait fortune en temps de guerre, Monsanto n'entend pas déposer les armes et mettra tout en œuvre pour faire fructifier son pactole en temps de paix, s'ingéniant à écouler ses produits nocifs sur les marchés, coûte que coûte. Constat terrible, révélateur d'une économie sans scrupules, qui s'enorgueillit de ses stratégies guerrières sous le couvert d'une image fabriquée de toutes pièces, de bienfaiteur de l'humanité. Il s'étonne candidement de la stigmatisation de l'entreprise auprès de l'opinion française. Nous l'invitons à regarder pour son éclaircissement et sa gouverne les photos prises par Mathieu sur les lieux de l'implantation de ses fabriques et sur ceux comme au Vietnam où la population souffre encore aujourd'hui des séquelles de l'agent Orange. Ces photos témoignent et parlent un langage cru, véridique. Ça n'est pas sans appréhension que je reçus l'annonce que me fit Mathieu de se lancer dans ce projet, connaissant la hargne de Monsanto qui attaque et poursuit ses détracteurs. Les paysans et autres victimes qui se sont sentis lésés par les pratiques de Monsanto et qui ont voulu se défendre le savent bien à leur détriment. Rendons hommage à leur courage et à celui des particuliers, des associations, des ONG qui se sont opposés et s'opposent encore avec ténacité à leurs risques et périls, aux prétentions du lobby monsantesque.
Mathieu Asselin, en le disant en début d'émission, c'est votre père qui vous a transmis la fibre citoyenne. La passion de la photo, c'est lui aussi ? Ça vous est venu comment, ça ?
C'était dans l'air, dans la famille. Donc,
tout le monde photographie ?
Non, pas tout le monde, mais on était en contact avec beaucoup de photographes et mon beau-père... le mari de ma mère,
c'est... Oui, c'est ça, ça donne votre beau-père, oui.
Mon beau-père, ouais. il était photographe, ouais. Mon parrain est un réalisateur de cinéma.
Donc vous avez ça dans le sang, quoi.
Donc oui, voilà, c'était toujours un peu...
Vous vous souvenez de votre toute première photo, celle dont vous vous êtes dit, ouais, peut-être que celle-là mérite d'être vue ?
Ah. Et ça, c'est une bonne question. Je ne m'en souviens pas c'est laquelle cette photo, mais je m'en souviens de mes premières photos, de mes premiers essais photographiques et de la sensation de dire « Waouh, c'est fantastique, il y a un monde à découvrir ». Et c'était en noir et blanc, et c'était dans un labo, et j'ai mis des objets sur un papier vierge, pas développé, et avec de la lumière. Donc ça projetait sur le papier.
Et c'était beau.
C'était beau, c'était fantastique.
Ouais. Et la lumière fut. On va se promener un petit peu avec vous encore, Mathieu Asselin. On ouvre les chakras et les parasols. Maintenant, un peu d'Aveyron, un peu de Ricard de contrebande. Le parfum d'un tabac clandestin. Oui, ça va sentir bon l'été dans ce studio 621. Ça commence avec Phoenix et J-Boy.
For more. I was excited to be part of your world, to belong, to be loved, to be mostly the two of us. Something I was doing for a reason at all. They hit me higher than a disco ball, but you talked, I'm gonna let you go. Stop the Picasso, Michelangelo. Something about the juice you wear. Shiny, shiny bangers on your wrists. And at the masquerade ball, you trapped in a vault and an end to your career. Suddenly you're out of the woods. Side of an alley, you're out of words. When I thought it was radio at first. Just because of you, these things I have to go through. Is it so bad? Is it so true? We're all to blame, their lies and moral consequences. We studied at the end of a line to end up giving up your cup of kiss. When you talk, man, I'll let you go. No more core on the other.
battle. Something about how you learn. Kamikaze in a hopeless world. Do you remember the last time you laughed and I laughed when you left all alone? Bend me on the lonely other side of the world. With a couple of guys and no alphabet. Put two and two together. We'll make it last forever.
Phoenix, J-Boy, premier single du tout nouvel album produit par les plus internationaux des Versaillais, un album concocté sous le soleil de l'Italie qui s'appelle Ti amo me guida e viamo tutti stamattina.
Dans quel monde on vit ? L'été sur France Inter.
Dans quel monde on vit l'émission qui vous parle de vous, de vos amours, de vos galères, de vos étés et non pas de vos hivers? Notre répondeur est à votre disposition. Alors n'hésitez pas à appeler le FET, le 01 56 40 55 35. Attention, je répète, 01 56 40 55 35. Racontez-nous vos souvenirs d'été, une rencontre forte, une histoire folle, un moment où les choses, quelles qu'elles soient, ont basculé. Allez-y, on adore ça. Alors merci Alain pour cet été particulier.
Alain, 59 ans. J'habite dans le sud-ouest. Il y a quelques années, pendant les vacances d'été, pour fêter les 20 ans de mon fils, je décide d'aller au pas de la case chercher de l'alcool. Je prends le train en direction de Valserterne et le bus jusqu'au village du pas de la case. Je réalise mes emplettes. Je prends deux cartouches de cigarettes, 14 bouteilles de Ricard, que j'emballe dans du papier journal pour éviter la casse. Avant le passage de la douane, j'observe quand même la façon d'opérer les douaniers. Je constate qu'ils sont deux. Ma stratégie, c'est de passer lorsqu'ils contrôlent les voitures, ce que je fais aussitôt. Après avoir passé le poste de douane, je pousse un nouveau soulagement. Mais voilà-t-il pas qu'un douanier sort de je ne sais où et m'interpelle. Avez-vous quelque chose à déclarer, me dit-il. Juste un peu d'alcool et quelques cigarettes. Nous allons vérifier. Je vide le sac, pas rassuré du tout. Effectivement, deux cartouches de cigarettes et 14 bouteilles de Ricard. Pour qu'il soit plus compréhensif, je lui explique que c'est pour le compte d'une association. Et je lui propose, en même temps, de garder 4 bouteilles et y fermer les yeux pour le reste. Le douanier n'apprécie pas du tout ma proposition. Vu sa réaction, et après, maintes paroles, je calme le jeu. Le douanier se montre plus conciliant et il ne me verbalisera pas à condition que je ramène les bouteilles chez le commerce. Hormis, bien entendu, les deux cartouches de cigarettes et les deux bouteilles auxquelles j'ai droit. Ce que je fais, c'est commentaire. Le commerçant me fait la voix que je récupérerai plus tard. J'ai vraiment eu chaud. Je vais m'en souvenir longtemps de cette journée. Je vous conseillerais, en ce bel été et à l'heure de l'apéritif, de boire avec modération un Ricard bien frais d'Intermarché. Bonnes vacances.
Bon ben voilà, on aura tout fait, hein, de la pub pour la grande distribution, pour de la contrebande et pour de l'alcool. C'est ça, si tu m'appelles, hein, je suis pas là moi. Mathieu Asselin, comme tous nos invités, vous avez sacrifié au rituel de cette émission et vous nous avez ramené un objet. Non, en fait, je mens. Vous ne l'avez pas ramené, vous l'avez oublié, car vous êtes distrait ou très occupé, ou les deux à la fois. C'est un objet, en tout cas, qui raconte vos étés à vous. Dites-nous ce que ça aurait dû être, Mathieu Asselin.
Mais ça aurait être et du romarin.
Qui me rappelle
l'été, du romarin qu'on trouve dans le sud partout, mais que j'ai pas pris.
Vous avez l'air tellement piteux.
J'ai pas trouvé.
C'est pas grave.
Mais bon, voilà, le romarin, ça me rappelle l'été, oui. Ça me rappelle l'été, ça me rappelle l'hiver, ça me rappelle tout, ça me rappelle le sud.
Le sud où vous vivez actuellement, mais c'est presque par hasard, parce qu'en fait, vous avez la bougeotte,
Oui, bon, ben, j'habite à New York où j'habite depuis très longtemps. Mais je passe de plus en plus de temps ici en France et surtout cette année, j'ai passé beaucoup de temps. J'essaye de faire un peu les allers-retours et voir si c'est une vie qui est possible.
Mais en tout cas, il y a du romarin alors qu'à New York, il y en a pas.
Et non. Mais ici, il y en a partout,
sauf dans vos poches ce matin.
Sauf dans mes poches ce matin, voilà.
Bon, quoi qu'il arrive, votre brin de romarin, on le retrouvera d'une manière ou d'une autre dans le pêle-mêle d'Alexandre Comte, pêle-mêle que vous retrouverez bien sûr vendredi, en toute fin de semaine, à la fin de l'émission. D'ici là, Rose Bernard le postera, elle aussi, d'une manière ou d'une autre, sur notre Instagram. Vous savez quoi, ici, on a la démerde, Mathieu Asselin. Mathieu Asselin, votre enquête photographique sur Monsanto, on la retrouve, elle, aux rencontres d'Arles, jusqu'au 24 septembre. Pardon, ma grande erreur, j'ai dit 24 août en début d'émission, je m'auto-flagellerai avec du barbelé pour la peine. C'est jusqu'au 24 septembre. On le retrouve, cette enquête, également dans un beau livre, dans un très beau livre, édité chez Actes Sud. C'est une gifle, mais ça vaut le coup, parce que c'est une belle gifle. On vous souhaite un très bel été, Mathieu Asselin.
Merci.
En Arles, toujours. On dit en Arles, on dit à Arles, on dit quoi ?
Arles.
Bon, eh ben, très bel été à Arles. Merci d'être venu nous voir. Merci à tous de nous avoir écoutés. Vous ne bougez pas. Vous avez rendez-vous avec Laurent Delmas et Ciné qui chante juste après le journal. Vous êtes sur France Inter. Il est évidemment 10h.